d'amour, Estelle. Et cette bien tendance sûr. Se vérifie dans les brasseries. On y retrouve encore les immanquables, tartare de bœuf, steak frites, mais certains plats comme l'andouillette ou le pot-au-feu se font plus rares. En revanche, et ça c'est l'un de mes combats, tu le sais, on est désormais certains d'y trouver des burgers.
Mais oui.
Les burgers présents au menu. J'ai découvert le chiffre ce matin, c'est Gira Conseil, le cabinet de conseil qu'on connaît bien, qui dit qu'aujourd'hui, il y a burgers dans 85% voilà. des menus des 145 000 restaurants français avec service à table.
Alors, est-ce la fin de la cuisine de mamie? Fred Hermel, je sais que vous êtes très attaché.
Je résiste à croire que c'est la fin. Je pense qu'à un moment, le bon sens va finir par l'emporter. Je pense qu'à un moment, les jeunes vont goûter, ils vont se dire « Ah, c'est quand même bon, quoi. » J'y crois.
Je vois crois qu'ils vont passer 4 heures à faire un bœuf bourguignon?
Non, pas eux, mais de voir les consommer, d'aller vers des restaurants où on en fait en disant « Tiens, c'est sympa, ça a du goût, c'est un goût qui dure longtemps. » C'est ça le truc, parce que tous ces trucs rapides, là, tu manges tout de suite, voilà, et puis après ça disparaît. Ces plats où on mange lentement. Je vois l'exemple de mon neveu, il mange comme beaucoup de jeunes, hein, plein de trucs, mais il adore la cuisine de sa mère, hein, et de sa grand-mère. Hein. Et je peux dire,
sa mère et sa grand-mère savent cuisiner la blanquette, mais est-ce que lui, il le sait?
Non,
bah donc,
il
ne
sait pas encore cuisiner, mais le fait d'être attiré par cela,
il a 22 ans,
d'avoir un bœuf bourguignon, alors nous on est très bœuf bourguignon, et puis pot-au-feu à la maison, voilà, puis avec les légumes du jardin et tout, tu vois, c'est une tradition, voilà. Là, par exemple, il adore la langue, c'est particulier, mais pour vous dire, la langue à la sauce blanche, aux champignons, il adore la langue, la langue de bœuf. Comment?
C'est bizarre quand même.
mais c'est classique à la campagne de manger la langue de bœuf.
Ah bon?
Bah oui, non, mais c'est pour vous dire qu'il y a. Bah oui, bien sûr, chez nous. J'ai mangé
c'est
la langue.
Très particulier.
Moi, j'ai mangé la langue toute mon enfance.
Le poche levêche.
Je sais plus comment. Alors, nous, on est l'Artois, c'est les Flamands qui mangent le poche levêche. Mais voilà, donc, il y a des gamins qui apprécient encore ce genre de choses. Il faut simplement leur proposer. Après, c'est la facilité des parents aussi, qui ne veulent pas. On passe beaucoup moins de temps, les parents aussi passent beaucoup moins de temps faire à manger.
Donc,
la responsabilité, c'est aussi des parents qui ont 30, 40, enfin plutôt 40, 50 ans, et qui ne font pas ce genre de plat à leurs enfants. Dans ma famille, on leur fait. Et ils aiment.
Anne-Sophie Saint-Père, la disparition peut-être de la cuisine de mamie, est-ce que c'est pas un petit peu à l'image de notre société, la culture de la flemme finalement, parce que c'est quand même plus simple de faire un steak haché que d'aller faire un bœuf bourguignon, quoi.
Oui, alors après, moi, je suis franchement pas hyper surprise quand les jeunes de moins de 23 ans disent qu'ils préfèrent un burger plutôt qu'une andouillette ou une longue sauce blanche. Par ailleurs, quand j'étais étudiante, je me rappelle pas avoir moi-même cuisiné des plats hyper compliqués. Parce que, par ailleurs, en étudiant, quand t'es dans une chambre universitaire avec une cuisine partagée, t'as plutôt tendance à te faire des pâtes au pesto avec ton budget réduit. Donc, je pense que se focaliser. Voilà, les jeunes ont une alimentation qui est pas forcément excellente. C'est une phase dans la vie. Et après, effectivement, ce qui va changer la donne, c'est ce que les parents vous ont cuisiné.
Oui.
Et après, du coup, sur ce comment, moi, je me suis posé la question. J'adore cuisiner, mais effectivement, je pense que ce qui m'empêche de cuisiner le plus souvent, c'est le problème du temps. Et après, il y a aussi toute l'idée que les produits non transformés coûtent plus cher, et donc du coup, on va pas le faire. Mais donc voilà, peut-être qu'à un moment, les parents ont moins cuisiné parce qu'ils avaient moins le temps. On verra les impacts. Mais en tout cas, sur la phase jeune, je suis vraiment pas surprise qu'il y ait une petite phase malbouffe. Je pense que toutes les générations l'ont connue. Recettes de pâtes à la bouilloire de chambre étudiante.
Ah bah ça c'est sûr.
Voilà, on l'a
les
fait.
Bolinos pour ceux de ma génération. Mais c'est quoi ton plat signature, Anne-Sophie?
Alors moi c'est pas du tout l'andouillette ou la blanquette. Parce que moi ça sera plutôt les curries. J'ai un grand-père indo-vietnamien, donc ma grand-mère était plutôt sur des curries diverses et variées.
Oui, mais
et
ça se mijote aussi. Voilà, c'est un plat qui prend du temps.
Ah non, mais ça prend du temps, et quand c'est bien fait, c'est excellent. Et par ailleurs, comme souvent c'est végétarien, ça coûte moins cher, donc c'est peut-être commencer à les cuisiner un peu plus tôt.
Jérôme Lavrieux, est-ce que ça vous étonne ces chiffres, finalement, les jeunes qui délaissent la cuisine de grand-mère?
Déjà, quand t'es jeune, t'aimes pas la cuisine que te faisaient vraiment tes parents. Ça n'empêche pas de le redécouvrir plus tard. Et ça va redevenir à la mode. N'oublions pas une chose, c'est que c'est toujours une histoire de femmes, la transmission des plats dits roboratifs et familiaux. Bon. C'est que les grands-pères et les grands-mères de maintenant, ils avaient 20 ans en mai 68. Et on a un basculement. Après mai 68, la cuisine longue, familiale, etc., ça diminue vite fait après. C'est la révolution culturelle de l'époque. Moi, mon plat préféré, le plat nostalgique, c'est la blanquette de veau.
Mais oui.
Mais pas parce que ma grand-mère le faisait, elle ne le faisait pas. Pour une raison simple, c'est quand je me suis engagé très jeune en politique, dans un parti politique qui n'existe plus, qui s'appelait le RPR, à chaque fois qu'il y avait un conseil national, une convention, on avait le droit à des milliers d'assiettes de blanquettes de veau. Je ne sais pas pourquoi ils étaient branchés sur la blanquette de veau. Et ça me rappelle ma jeunesse militante.
La blanquette de veau.
Ouais. Je crois
que c'était la tête de veau.
Non, Chirac, à mon avis, il a fait la connerie une fois de dire qu'il était fan de tête de veau.
Ouais.
Puis résultat, toute sa vie, on lui a servi de la blanquette de la tête de veau, alors qu'il
en avait.
Il n'en pouvait plus. Et la Corona, je l'ai vu moi-même. Oui. Il crachait pas dessus. Hein.
Oui. Nous sommes avec Marie, qui nous appelle de Nant-les-Pins, dans le Var. Elle est infirmière. Bonjour Marie. Est-ce que Marie est avec nous ?
Avec vous.
Ah, Marie, ça y est, on vous entend. Marie, vous êtes infirmière, donc on parlait de cuisine qui prend du temps, il y a un instant, avec Anne-Sophie Saint-Père. Mm-hmm. J'imagine qu'en tant qu'infirmière, vous n'avez pas forcément le temps de cuisiner des blanquettes de veau, des bourguignons.
Alors, en tant qu'infirmière, c'est sûr, parce que je suis infirmière de nuit. Alors, je suis un peu comme tout le monde, il y a des fois où ça va être très rapide. Mais après, j'avoue que je prends beaucoup plaisir à cuisiner dès que je peux, quand je suis en repos. Et comme je disais tout à l'heure à mon interlocuteur, j'ai hérité des vieilles cocottes, le creuset de ma grand-mère. Et je peux vous assurer que quand vous cuisinez là-dedans, pour rater quelque chose, il faut vraiment le vouloir. Il n'y a rien de tel d'entendre chanter les oignons que vous faites déglacer. C'est une merveille. Et pour répondre à votre collègue, je veux bien l'inviter à manger une merveilleuse blanquette de veau, parce que je la fais à merveille. Je tiens ça de ma maman. Voilà. Et j'ai un petit garçon de 8 ans.
Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous cuisinez avec lui ?
Alors, moi, je cuisine avec lui, et il y a des fois pas du tout, parce qu'il préfère être avec ses Legos, mais il est mon goûteur. Et alors, quand il me dit « Maman, t'es la meilleure cuisinière du monde », mais pour moi, j'ai hâte à l'Oscar. Hein. Voilà.
Alors, ça, je comprends. Après, 8 ans, juste 8 ans, il arrive à apprécier des plats comme des plats assez forts. Genre le bœuf bourguignon, c'est un plat quand même qui a beaucoup de goût. Il arrive à apprécier ça, l'andouillette, le bœuf bourguignon.
Alors, l'andouillette, pas du tout, parce que c'est encore un peu fort. Mais j'essaye de l'initier à toute cette culture française de la bonne bouffe. Il vient chez le boucher avec moi. On a un petit boucher sur Nant-les-Pins qui s'appelle Patrick. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou s'il nous écoute. Qui a de la viande, mais fantastique. Et je sais que lorsque je vais cuisiner un morceau de viande, je vais la faire les yeux fermés parce qu'elle est tout simplement d'une tendresse, c'est du beurre. Quand je fais un confit à la bière qui est mijoté au four pendant 8 heures, je peux vous assurer que mon gamin, il se régale. Voilà. Et mon mari, de surcroît. Voilà.
Mais en fait, voilà, vous continuez effectivement à initier votre fils aux traditions et aux bons petits plats de grand-mère. Merci beaucoup, merci Marie d'avoir été avec nous. Je m'embrouille parce que je n'ai pas mangé. Moi, pour l'instant, je suis un petit peu embrouillée et voilà, toutes ces idées de recettes là me montent un petit peu au nez. Adèle est avec nous. Nous appelle de Chantilly et lui, il est restaurateur traiteur. Bonjour Adèle.
Bonjour à toute l'équipe. Bonjour.
Adèle, est-ce que ça marche, tiens, justement, dans votre restaurant, les plats traditionnels, comme ça, les plats traditionnels de grand-mère ?
Ben moi, j'en ai fait, par exemple, là, j'avais, sur la partie traiteur, j'en ai fait pour toute une équipe de jeunes qui faisaient une installation sur un terrain de concours. Et ils ont adoré, j'aurais fait des blanquettes de veau, plein de plats en sauce cassoulet, ce genre de choses, et ils ont apprécié. Le seul problème, c'est que, comme d'habitude, alors, on va reprendre un peu l'actualité, mais c'est de la faute des parents, quoi. C'est les parents qui apprennent les bonnes choses aux enfants. On a une nouvelle génération de parents qui balancent des pizzas, des burgers, des sushis à leurs gosses. Et puis voilà, les parents, ils se mettent sur leur réseau. Puis même, regardez votre sondage de tout à l'heure. Et même recevoir des invités, aujourd'hui, on a la flemme. On fait des apéros dînatoires. Donc, si même recevoir des invités, on prend pas le temps de faire un bon dîner et de recevoir des gens, qu'est-ce que vous voulez transmettre et apprendre aux enfants?
Non, mais vous avez raison.
C'est un apéro dînatoire. On reçoit des invités, vous dites à votre fils, à vos enfants, attends, on reçoit des invités, attends, ouvre le paquet de charcutes, coupe le saucisson en 4 morceaux, hop, mets ça, 3 points. C'est ce qu'il veut qu'il apprenne à la bonne cuisine. C'est les parents. C'est les parents qui transmettent, hein. C'est comme ça la cuisine, hein. C'est depuis des années, c'est de transmission en transmission. On a une nouvelle génération de parents qui préfèrent être sur les réseaux sociaux à la salle de sport à 21h plutôt que de faire à manger pour leurs enfants.
Oui, vous avez pas tort, Adèle. Alors après, il y a quand même le carton des bouillons chez les jeunes.
C'est ce que j'allais dire, parce que c'est pour ça que c'est un peu faux le titre. Les bouillons, ils cartonnent. Aujourd'hui, vous faites la queue pour manger dans un bon bouillon aujourd'hui.
Mais parce que c'est pas cher.
Il y a pas mal de jeunes, hein. Il n'y a pas que des soixantenaires, hein.
Mais parce que c'est pas cher.
Des trentenaires, des vingtaines. Et parce que c'est pas cher, mais parce que c'est bon. Pas cher et dégueulasse, personne n'y va, hein. Ça, moi, en tant que restaurateur, je peux le savoir. C'est bon, tout simplement. Mais c'est des choses que les parents ont loupées. si les jeunes apprécient aller manger dans des bouillons, un, c'est pas cher. Donc, c'est-à-dire, un, que pour les parents, ce qui se tient toujours en termes de pouvoir d'achat, cuisiner soi-même et des plats typiquement français, ça peut ne pas coûter cher. Et par contre, c'est pour ça que le bouillon, ça cartonne. Allez dans tous les bouillons à Paris, vous faites la queue une heure.
Pendant deux heures, même, bien sûr. Là, vous avez raison.
C'est une question de transmission et c'est de la faute des parents. Les parents, ils se dédouanent de tout aujourd'hui. L'éducation, c'est pas moi. La cuisine, c'est pas moi. Ils veulent faire quoi? Que des photos sur Instagram à la salle de soir? Non, mais c'est bon. Et aller en week-end à Barcelone et les donner à mamie? Non, quand on est parent, faut assumer. Il y a plein de choses.
Bah, merci beaucoup pour ce petit coup de gueule, Adèle. Voilà, restaurateur. C'est quoi le nom de votre restaurant à Chantilly?
Éthergie.
D'accord. Eh ben merci beaucoup Adèle d'avoir été avec nous. Des messages sur la pierre, MC Rémi.
Nombreux messages, notamment ce message de Julien qui nous dit on s'en fout de toute façon de mamie puisqu'on l'a mis à l'EHPAD.
Si les
les gens ne cuisinent plus de plats traditionnels de nos régions, c'est en premier lieu parce qu'ils ne les connaissent pas et que tu vois que le moindre restaurant préfère faire du hamburger et du steak frites plutôt qu'une gardiane, une zarzuela ou une parrillada qui sont les plats traditionnels de chez moi du côté de Palavas et de Montpellier. Il y a de quoi s'inquiéter. Après, la France change et les traditions avec. C'est comme ça, on n'y peut rien.
Et on a le classement des plats préférés des Français, Rémi.
Et ça, c'est intéressant parce qu'on a le classement à la fois de ce qui représente le mieux la cuisine française pour les Français et ce qu'ils consomment le plus.
D'accord.
Ce qui nous représente le mieux, selon un sondage Ipsos, c'est le bœuf bourguignon, le cassoulet, la blanquette de veau.
D'accord.
La région où on cuisine le mieux, selon les Français, selon les jobs, c'est le Sud-Ouest.
D'accord.
Voilà. Ouais. Okay. Maintenant, il y a ce que l'on consomme le plus, en général, c'est des sondages.
Pas des burgers.
Le poulet frites.
Ouais. Bah, qui est aussi un plat de grand-mère. Hein,
si... Le poulet frites et derrière la pizza.
Ah oui, là, c'est évidemment moins un plat de grand-mère. On est avec Sofiane, qui est chef de restaurant dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour, Sofiane.
Bonjour. Bonjour, Estelle. Bonjour à tous.
Bonjour.
Sofiane, est-ce qu'il y a des plats du style, effectivement, blanquette de veau, bœuf bourguignon dans votre restaurant?
Alors nous, si vous voulez, on travaille uniquement au plat du jour. Donc on a une ardoise avec chaque jour deux entrées au choix, deux plats et deux desserts. Toujours un choix de viande, un choix de poisson, histoire d'avoir de la diversité. Mmh. Par contre, nous, on évite. Donc moi, j'ai pris le parti de pas avoir de friteuse au restaurant pour pas faire de frites.
Ouais.
Et de pas avoir de nuggets pour les enfants, de pas avoir de burgers. Et malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, les gens à qui ça pose relativement le plus de problèmes, ça reste les parents quand même. Hein. Quand on n'a pas toutes ces choses-là au restaurant, ça empêche les parents de venir manger au restaurant parce que comme on n'a pas ce qui va plaisir à leurs enfants, du coup, ça reste problématique. Mais moi, je pense que...
Alors attendez, Sofiane, on va vous rappeler, parce que la ligne elle est mauvaise, mais c'était très intéressant ce que vous disiez, que vous refusiez de faire un menu enfant avec des nuggets ou de servir des burgers et qu'effectivement les parents du coup venaient moins dans votre restaurant. On va vous rappeler, Sofiane, sur une meilleure ligne, mais on a Michael qui est cuisinier du côté de la Moselle à Amnéville. Bonjour Michael.
Bonjour Estelle. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors Michael, vous êtes cuisinier et vous avez deux enfants en bas âge. Est-ce que vous les initiez à la cuisine justement et on va dire aux plats traditionnels?
Tout à fait, parce que moi je leur fais comme, parce que moi je travaille pas le soir, j'ai la chance de pas travailler le soir.
Ouais.
Donc le soir quand ils veulent cuisiner avec moi, je leur fais faire par exemple éplucher des légumes et tout ça. Je leur fais des bœufs carottes, je leur fais des bœufs bourguignons avec des pot-au-feu. Le lendemain avec le pot-au-feu, on va faire une soupe de Saint-Michel. Je leur fais faire goûter aussi des cuisses de grenouille. Je leur fais goûter un petit peu de tout en fait.
Et ça marche, Michael?
Et ça marche. Il y a des trucs qu'ils aiment moins que d'autres. Mais par contre, comme le bœuf carotte, les pot-au-feu, ça, ils adorent. Parce qu'après, le lendemain ou le soir, on fait une soupe de vermicelle avec. Donc ça fait vermicelle, légumes, ça fait la viande. Ils sont contents.
Et ils ne vous réclament pas comme tous les gamins de cet âge-là, hein. Je crois que vous avez un enfant de 6 ans, un autre de 3 ans, mais ils ne vous réclament pas des burgers, des steak frites, des nuggets?
Ils réclament, mais en fait, parce que c'est plus pour, parce qu'ils voient ça à la télé, pour les cadeaux. Mais sinon, ils n'en mangent pas.
D'accord, vous ne leur faites jamais ces plats-là, alors que vous êtes cuisinier?
À la maison aussi, je leur fais des vrais burgers, je vais faire les cordons bleus, on va faire nous les nuggets, mais c'est maison. On essaie le plus possible de travailler maison.
Eh ben super, Michael. Ben merci beaucoup en tout cas.
C'est ce qui se perd en fait de plus en plus. Moi, je vois des gens, ben, ils achètent des trucs déjà tout faits ou alors ils vont plus vers les plats anciens. Ils vont sur la facilité.
Oui, parce que ça prend du temps. Après, c'est ce que disait Anne-Sophie Saint-Père. C'est sûr que d'ouvrir une barquette de blanquettes, ça prend moins de temps que d'en faire une soi-même. Mais alors, qu'est-ce que c'est mauvais et c'est affreux. Je crois que c'est le pire, en fait. Les plats anciens préparés, je crois que c'est là où il y a le plus de différence. Merci beaucoup, Mickaël, en tout cas, d'avoir été avec nous. Est-ce qu'on assiste quand même, à votre avis, Jérôme Lavrieux, à une aseptisation de la cuisine? Et c'est vrai que Rémi le disait, il y a des burgers à chaque carte de restaurant. Aujourd'hui, les ceviches, les tartares de dorade, non mais c'est pareil. Pardon, mais il y a 20 ans, il n'y avait pas de ceviche à la carte des restaurants. Il y avait à peine des burgers aussi. Et maintenant, il y a les mêmes cartes partout, quoi. Vous avez la burrata aussi à chaque fois en entrée. Enfin, c'est pareil partout, quoi.
Oui, mais comme disait Coluche, il suffirait que les gens achètent de les acheter pour qu'on leur en propose plus. Hein. S'il y a des gens qui vont au restaurant, c'est ça pour eux. Tous les plats dont on parle, c'est des plats qui nécessitent des heures. Il faut aller faire les courses, il faut aller au marché, il faut le mitonner. N'oublions pas que c'était le règne de la femme au foyer qui permettait de manger ça tous les jours. Puis après, c'est passé le dimanche. Puis le dimanche, maintenant, on fait d'autres activités avec ses enfants. Ouais, et vrai. La seule qui s'y cognait derrière les fourneaux, c'était la femme. À chaque fois, la charge mentale, c'était pour elle de le faire. Et donc, c'est pour ça que la transmission se perd. Mais comme tout, il va y avoir un morceau à un moment où il y a de la nostalgie. Les bouillons, pour l'instant, c'est un phénomène assez parisien ou dans les très grandes villes. Mais maintenant, les plats, moi, je vois dans le petit village à côté de chez moi, il y a un restaurant qui s'est ouvert où, en fait, ils n'ont pas beaucoup de choix. Mais c'est des plats traditionnels. Ça ne désemplit pas. Et donc, ça va revenir parce qu'il faut redécouvrir. Mais ce qu'on n'aime pas, c'est ce qu'on ne connaît pas. Si tu ne donnes pas la chance à ton enfant de découvrir un autre plat, c'est comme l'étranger. Tu ne l'aimes pas parce que tu ne le connais pas. Donc c'est toujours comme ça. Et si tu lui donnes la possibilité de découvrir les choses... Moi, je suis parrain de 3 enfants et beau-père d'une petite fille. Et ben, je suis le premier qui les invite systématiquement à découvrir ce que c'est qu'un restaurant gastronomique. Et ben, je peux dire que pour certains, 10 ans après, ils s'en rappellent encore de ce qu'ils ont mangé.
C'est vrai.
Et le bigorneau en amuse-bouche, ils étaient sur le point de vomir. Ils l'ont mangé parce que la mayo, c'était pas celle qu'il y avait en tube chez papa-maman. Et donc, ils ont adoré. Mais il faut leur donner la possibilité de découvrir.
Et les forcer un petit peu. Il faut les forcer un petit peu. Parce que des fois, attends, moi je me souviens, la première fois où mon neveu est venu tout seul à Madrid de me voir. On va dans un resto que j'adorais où il faisait de l'omelette à la truffe fraîche.
Oui.
J'étais déjà goûté. Et non, j'aime pas. Voilà. Il a goûté, je peux te dire que depuis. Oui. Mais c'est ça.
Maman, on m'avait forcé à manger de la cervelle quand j'étais petite. Crois-moi, j'en ai un très mauvais souvenir, toi.
Oui, mais quand ils voient que les adultes en mangent, en veulent, il y a quand même un moment où ils sont curieux de goûter.
Non, mais c'est oui. Mais t'as des plats qui sont quand même plus difficiles que d'autres.
En fait, les enfants n'aiment pas ce qu'ils ne connaissent pas. C'est vraiment
ce qu'ils ont mangé juste à la cantine.
Ouais, voilà, donc le truc, et donc tu leur montes un peu.
La langue de bœuf à la cantine, bonjour. Hein.
Ah, ça te dégoûte. Ah, c'est comme les œufs mollets sur les épinards, ça te dégoûte.
Alors moi, là-dessus, la cantine.
Moi, j'ai eu ça à la cantine.
C'est génial, les œufs mollets sur les épinards.
Non, mais pas ceux de la cantine où j'étais à Saint-Quentin. Il m'a fallu 20 ans avant de pouvoir en manger.
Moi, c'est les rognons. Les rognons du collège Herio, ça, j'ai jamais pu manger de rognons depuis.
Bon, nous avons retrouvé Sofiane, des Pyrénées-Atlantiques, qui est chef de restaurant. Sofiane, on était en train de dire que vous aviez un restaurant où vous refusiez de faire des nuggets, des burgers, et que donc, conséquence, les parents ne venaient plus avec leurs enfants, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, je suis sur un petit village de 1000 habitants où il y a une école qui est juste à côté. Et j'ai constaté que du fait que je faisais pas toutes ces choses-là, effectivement, cette clientèle-là, malheureusement, je me suis tiré une balle dans le pied par rapport à ça. Après, l'avantage que j'ai à côté de ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont curieux et qui ont envie de redécouvrir des choses un peu plus naturelles et traditionnelles, qui, eux, perdent pas l'occasion de venir me voir. Mais après, ce que je voulais dire, c'est je pense qu'il y a eu une transition générationnelle, en fait, parce qu'on parle des plats de nos grands-mères. Donc, effectivement, nos grands-mères cuisinaient beaucoup. Donc, oui, j'ai entendu, on parlait de la femme au foyer. Qui est vrai, mais pas seulement, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir une maman qui habitait à Paris, travaillait le matin de 7h jusqu'à 18h, et tous les jours on avait quand même le droit d'avoir des plats cuisinés à la maison. Alors forcément, c'était pas tous les jours les plats du dimanche, parce que les plats du dimanche nécessitent effectivement plus de temps, mais au moins la semaine on avait quelque chose de frais qu'elle avait préparé, et le week-end on avait des plats où là on avait un peu plus de temps. Mais je pense qu'il y a vraiment une culture qui s'est perdue, une éducation qui a mal été, une transition en fait, mais je pense que c'est aussi dû à l'industrialisation dont on a été dont la France a été victime pendant de longues années, à savoir les plats déjà tout préparés, les plats également qu'on mange en cantine, et les gens du coup ça c'est pas bon, je l'ai mangé à la cantine, c'est dégueulasse. Donc quand je le vois à la carte du restaurant, je vais pas le prendre parce que c'est pas bon. Et je pense que c'est un peu ce côté-là qui s'est perdu, le côté où ces plats-là, on les mange vraiment fait maison et fait avec amour. Et donc, du coup, là, effectivement, ça n'a pas le même goût que ce qu'on va manger dans une boîte ou à la cantine. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu ça, quoi.
Après, le problème aussi, c'est le menu enfant au restaurant. Enfin, il y a 20 ans, il n'y avait pas de menu enfant au restaurant, quoi. Et puis, comme si les enfants ne pouvaient pas manger la même chose que leurs parents. Mais ça paraît fou, parce qu'évidemment, la facilité, quand vous arrivez avec un gamin qui a 5 ans au restaurant, bah, vous lui dites, bah, tiens, prends des nuggets frites, alors que toi, tu vas manger ton bœuf bourguignon. Alors que le gamin, bah, il serait peut-être très heureux de manger la même chose que les parents et du bœuf bourguignon. Et ça, ces menus enfants, avant, ça n'existait pas. Et maintenant, c'est dans tous les restaurants, c'est comme ça. Et c'est peut-être dommage. Comment il s'appelle votre restaurant, Sofiane?
Ça s'appelle chez Victorine et Fatima. C'est à Bos d'Arros, on n'est pas loin de Pau, à côté de chez Monsieur Bayrou.
Eh ben, génial, merci beaucoup Sofiane.
Si je peux me permettre, nous on a fait un menu demi-portion, donc c'est-à-dire que nous le menu enfin c'est un menu demi-portion. Donc
eh ben, super.
On mange comme des enfants, tout est divisé par deux également le prix, mais comme je vous disais, malheureusement, même avec ça, c'est... Enfin, voilà, il y a des parents qui, eux, quand ils sortent au resto, ils veulent la paix, ils veulent filer des nuggets et des
frites aux enfants pour pas et être. Et des écrans surtout.
Et, ouais, et des écrans. Alors, ça, les écrans, je ne vous en parle même pas, ce sera un autre sujet, mais oui, les écrans au restaurant, c'est vraiment un problème. Ouais.
Exactement. Merci beaucoup, Sofiane, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et on termine avec Gaëtan de Bascon, dans les Landes. Il est chauffeur routier. Bonjour, Gaëtan.
Bonjour à vous tous.
Et Gaëtan, on parle beaucoup de grand-mères, de femmes qui font la cuisine, mais chez vous, c'est vous le cuistot, hein, Gaëtan?
Ah oui, c'est moi qui fais à manger. Bon, j'adore ça en plus parce que j'ai été, comme on dit du côté chez nous, j'ai été dans les jupons de ma mère et de ma grand-mère.
Ouais.
Voilà, donc j'ai appris. Enfin, j'essaie de perpétuer, on va dire, ce qu'on a pu me transmettre parce que bon, maintenant je n'ai plus ma grand-mère. Voilà, mais j'essaie de retranscrire tout ce qu'elle faisait, comme faire cuire le poulet de la cocotte en fonte. Voilà, avec des pommes de terre avec des cèpes, voilà. Mais comme je dis, bon, je vous écoute, bon, moi, je vous écoute tout le temps. Mais c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'écoute tout ce qui est dit. Mais on a un gros problème dans cette société, c'est que on oublie tout ça. Et je pense que oublier, ça rend service à beaucoup de parents, parce que on préfère prendre la facilité. Et manger, excusez-moi du terme, mais manger de la merde, parce que après on se plaint qu'on a des problèmes de poids, des problèmes de santé, mais il faut pas chercher bien loin. Hein. On préfère faire passer le loisir avant de bien manger, parce que bien manger, oui, parfois, moi je sais que je fais le cochon à l'ancienne, je fais les canards gras, je fais le foie gras, mes filles elles mangent de tout, mais on n'a pas de problème de santé. Hein.
Oui, non, voilà. Mais bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Gaëtan, non, mais vous avez raison. Effectivement, et on n'a plus envie trop de se fatiguer aussi à faire la cuisine. Merci, Gaëtan, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis merci de votre fidélité, puisque vous nous écoutez tous les jours, Gaëtan, dans votre poids lourd. Merci beaucoup. Rémi, on va terminer avec notre sondage. Voilà, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la cuisine de mamie?
Non. Non, pour 72% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Sur RMC, tous les matins dès 6h30, commencez la journée dans la bonne humeur avec Apolline Matin.
De l'écho, de l'actu, des débats, du rire dès le réveil, un journal toutes les demi-heures, les meilleurs invités et vous au 32-16.
RMC, Apolline Matin, du lundi au vendredi, 6h39. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. Estelle Midi.
RMC Conso.
On parle mariage avec vous, Charlotte. Alors, se marier, on le sait, ça coûte très cher. En moyenne, pour un mariage, c'est 13 500 euros. Mais il existe de plus en plus de solutions pour réduire la facture. Et même mieux, Charlotte, on peut désormais gagner de l'argent en se mariant et pas obligé pour ça d'épouser un millionnaire.
Non, pas obligé. Il y a plusieurs solutions. Vous connaissez peut-être le mariage participatif. Ça consiste à faire payer ses invités en amont pour financer le mariage.
C'est ça.
Il y a des gens qui le font.
Oh non.
C'est une niche.
Oui, non, mais bien sûr, c'est une niche. Mais bon, après, je vous donne l'option, vous faites ce que vous voulez. Il y a le mariage sponsorisé aussi, distribuer des flyers de son traiteur, par exemple, à tous ses invités contre une ristourne sur la prestation. Ça existe aussi. Et puis, ce nouveau concept qui vient de sortir, qui consiste cette fois à vendre des places pour son propre mariage à des inconnus.
Alors on avait évoqué ça dans Estelle Midi il y a une semaine, c'est vrai qu'on n'avait pas bien compris en quoi ça consistait.
Ah bah, j'ai tous les détails.
Ah bah, alors allez-y.
Alors, tout simplement, bah, c'est comme si vous étiez un artiste qui vend des places à son concert, sauf que là, vous êtes un futur marié qui vend des places pour son mariage. C'est un site qui propose ça, ça s'appelle Invite-In. Et donc, il vous permet de poster tout simplement une petite annonce avec le lieu, avec des photos de vous et de votre futur époux ou épouse, une petite description du mariage à venir, et puis bien sûr le prix. Alors, j'ai regardé les annonces, ça va de 50 à 500 euros la place, tout de même. Ce sont les mariés qui décident évidemment du prix, et puis ensuite, ils peuvent sélectionner les profils qui veulent acheter une place. Ils peuvent très bien refuser quelqu'un, évidemment. L'argent leur revient, bien sûr, et ça permet de financer une partie du mariage, moins 15% de commission quand même pour le site.
Mais excusez-moi Charlotte, mais il y a vraiment des gens qui veulent assister à des mariages de gens qu'ils ne connaissent pas.
Alors en tout cas, l'idée derrière ça de la fondatrice Katia Lekarski, c'est de permettre à des gens qui n'ont pas la chance d'être invités à des mariages de pouvoir quand même vivre l'expérience.
Ou la malchance.
Avec l'idée, oui, alors ça dépend des situations. L'idée qu'un mariage, bon, bah, c'est non seulement un moment d'amour et de partage, mais aussi un moment de fête, souvent dans un bel endroit, je dis bien souvent, avec de la musique, pour danser, pour faire des rencontres aussi. J'ai quelques exemples à vous donner que j'ai repérés sur le site.
Ouais, allez-y.
Alors, Lorraine, 29 ans, et Evan, 36 ans. Je vous cite ce qu'ils ont écrit, hein, c'est pas moi qui le dis. Un couple un peu décalé veut fêter son union avec 75 convives, et vous aussi. Le concept est drôle, on s'est dit que personne ne serait aussi fou de payer autant pour participer à un mariage. Le pari est lancé, on fera la fête jusqu'à 4h du mat. La musique, ça sera principalement du rap, hip-hop, R&B, etc. Le tout pour 500 euros la place tout de même, et ça aura
500
lieu...
500 euros ?
Ouais, c'est cher. Le 4 juillet, si jamais voilà. Ça vous intéresse. Dommage.
Mais il y a des gens qu'on sait s'il y a des gens qui ont donné.
Alors non, justement. Juste un autre exemple, si jamais vous voulez aller au mariage de Jennifer et Polo, ça sera le 16 août pour 190 euros au manoir de Tijoux en Seine-et-Marne. Donc deuxième exemple, pourquoi pas. Vous me demandiez s'il y avait des gens qui avaient déjà acheté. Non. Il n'y a personne pour l'instant qui a acheté.
Voilà.
Ça vient tout juste de démarrer. Hein. Ça vient tout juste de démarrer. Je posais la question à Katia parce que ça m'intriguait. J'avais envie de savoir et elle me disait qu'elle prévoyait quand même de faire 2000 mariages comme ça sur la plateforme sur un an. Alors c'est très ambitieux. Pour le moment, il n'y a pas encore eu de place vendue, mais il y a quand même six
quand
couples.
Même, oui. Très ambitieux. Oui.
Oui. Il y a quand même six couples de mariés qui ont posté leurs annonces, qui ont proposé des places à vendre pour leur mariage.
Mais c'est très bizarre, pardon.
Cette dame, elle me disait que elle avait quand même reçu des messages de personnes intéressées pour acheter des places, notamment une maman célibataire de 47 ans qui a envie de faire des rencontres. Il y avait aussi
on
un couple.
On va lui planter Fred Hervel, ça lui coûtera moins cher.
Ouais.
Peut-être pas.
Pourquoi pas? Ou alors on envoie Fred Hermel au mariage et puis on fait une petite rencontre arrangée.
Il y avait qui d'autre?
Il y avait aussi un couple de sexagénaires qui avait envie de s'amuser. Et puis il y avait enfin un tour opérateur qui avait envie de faire découvrir la culture française à ses touristes.
Ah, ça c'est pas mal. Non, mais ça c'est pas mal. Ça en vrai c'est une bonne idée. Effectivement, mais tu sais, des fois tu vas dans des pays et t'as les excursions qui sont totalement bidons, genre faites un petit déjeuner.
Ouais, mais là,
il faut plus se mettre là. Enfin, que ça représente vraiment.
Tu te maries. Marie en blanc, tu mets des fagotines d'haricots verts.
Super l'image de la France.
Bah oui, mais enfin c'est ça un mariage. Tu te maries en blanc, tu fais un petit pâté en entrée, une fagotine d'haricots verts, lardon. Enfin, je dirais, avec la pièce montée.
À la limite, tu fais un apéro dînatoire, t'es tranquille.
Non, mais une pièce montée, et une valse avec le papa, et puis c'est réglé. Là.
Après, il faut imaginer le quart de touristes qui débarquent avec les appareils photo et tout.
Mais il faut savoir
faut
ce qu'on
voir. Mais il faut savoir ce qu'on veut, et ça permet de gagner un peu d'argent.
Effectivement, je n'avais pas pensé à ce business model. Mais ça, c'est pas mal. Ça peut marcher.
En tout cas, sur les profils des personnes qui peuvent potentiellement postuler et puis payer pour aller au mariage, rassurez-vous sur le fait qu'ils sont vérifiés par la gérante. Donc, ça évite normalement toute possibilité qu'un voyeur ou une personne mal intentionnée vienne au mariage. Les acheteurs, ils signent une charte de conduite et puis il y a une assurance responsabilité civile incluse si jamais il y a un dommage quelconque pendant le mariage.
Je préférerais quand même voir le casier judiciaire de la personne, tu vois.
Oui, c'est mieux.
Non, bah, s'il a déjà eu des trucs avec des enfants ou quoi, enfin, comme des enfants au mariage, enfin, je sais pas quand même.
Ah oui.
Mais en tout cas, risqué.
C'est un petit peu, c'est un petit peu risqué. Après, bon, normalement, c'est vérifié. Vous pouvez échanger avec la personne en live, voir si ça va marcher.
Elle va pas te dire, j'ai touché des enfants il y a 2 ans dans une sortie scolaire, hein, tu vois. Donc,
c'est sûr. C'est un point sur lequel il faudrait vérifier encore plus que tout va bien. En tout cas, moi demain, j'ai le mariage d'Angèle et Michael à 14h, donc je vous laisse parce qu'il faut que j'aille acheter ma robe.
Ah, vous y allez.
Bah, j'y vais. Allez, à demain.
Elle a
je plaisante, je vais pas, enfin voyons.
Charlotte Méritant, tous les jours, évidemment, RMC Conso, dans Estelle Midi, 14h30, les bons plans de Charlotte, comme celui-là. Et puis vous pouvez réécouter cette chronique sur RMC.
Je n'ai fait que le présenter, après vous faites bien ce que vous voulez. Hein.
Oui,
vous
faites ça à chaque fois. RMC.fr, l'appli RMC, toutes les plateformes de téléchargement.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.
RMC, il est 4h30. Bon réveil à tous, bienvenue sur RMC. Dans moins d'une demi-heure maintenant, c'est le coup d'envoi de Charles Matin. On va débuter une nouvelle matinée d'infos, de bonne humeur, tous ensemble pour attaquer la journée avec vous, les courageux du matin, les lève-tôt, vous qui êtes déjà au boulot peut-être, déjà en voiture ou encore tranquille à la maison. Et d'ailleurs, on est là pour vous informer dès 4h30, un premier journal en direct avec Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Qui est le passager du siège 11A, seul survivant du crash d'un avion hier en Inde? L'appareil s'est écrasé dans une zone résidentielle. Bilan 265 morts au moins. La consommation de drogue au travail explose, multipliée par 2 en 8 ans. Les plus précaires sont davantage concernés. Vous entendrez le témoignage d'une ancienne consommatrice de cocaïne. Elle raconte son passé et ses dérives. Et puis, si vous êtes superstitieux, c'est un peu votre journée. Nous sommes le vendredi 13.
265 morts, bilan provisoire ce matin après le crash d'un avion hier en Inde.
Un Boeing de la compagnie Air India, il s'est écrasé sur une zone résidentielle peu après son décollage dans le nord-ouest du pays à destination de Londres. On ne connaît pas à cette heure les raisons de ce drame. Les bureaux d'enquête britanniques et américains spécialisés dans les accidents aéronautiques vont être dépêchés sur place. Une vingtaine de personnes ont été tuées au sol. 241 passagers de l'avion sont morts. Un seul a survécu. Un miracle pour cet homme sorti presque indemne de cet avion, Alfred Orange.
D'après les autorités indiennes, il s'agit d'un ressortissant britannique de 40 ans qui rentrait d'un séjour familial en Inde. Ce miraculé, assis à l'avant de l'avion, a confié à un journal indien avoir entendu un bruit sourd 30 secondes après le décollage. Blessé mais conscient, l'homme aurait tout de suite joint sa famille pour les avertir de l'accident, d'après l'un de ses frères qui vit lui aussi en Angleterre.
Il a appelé notre père tout de suite, il a dit « l'avion vient de s'écraser ». Il disait « je ne sais pas où est mon autre frère, je ne vois aucun autre passager, je ne sais pas comment je suis encore vivant ni comment j'ai réussi à sortir de l'avion ». C'est un miracle qu'il ait survécu.
Blessé à la poitrine, aux pieds et aux mains, ce survivant a été hospitalisé, mais son état n'inspire pas d'inquiétude selon son cousin.
Il nous a juste dit qu'il allait bien.
Des propos confirmés par des images prises plus tard à l'hôpital où l'on voit ce passager alité mais réveillé. Son autre frère, assis juste à côté de lui dans l'avion, ne semble pas avoir eu la même chance. Il est aujourd'hui présumé mort par les autorités.
À l'étranger toujours, l'Iran frappé cette nuit par Israël. Une première série de frappes préventives, dit l'État hébreu, contre des cibles militaires et nucléaires iraniennes. Le chef des gardiens de la révolution, Hossein Salami, a été tué. Les États-Unis précisent qu'ils n'ont ni participé ni fourni d'aide aux frappes israéliennes. Donald Trump, qui avait exhorté Israël à ne pas frapper l'Iran hier, va réunir aujourd'hui son Conseil de sécurité nationale.
RMC 4h33 et l'émotion qui sera très grande ce soir à Nogent.
18h au départ du collège Françoise Dolto, une marche blanche en hommage à Mélanie, cette jeune maman surveillante de collège mortellement poignardée mardi matin par un élève de 14 ans. Il a été mis en examen pour meurtre et écroué. Il encourt une peine de 20 ans de réclusion criminelle. La loi contre le narcotrafic va pouvoir entrer en vigueur, largement validée par le Conseil constitutionnel, exception faite de 6 articles retoqués par les sages. C'est le cas notamment du recours automatique aux auditions par vidéosurveillance pour les dangereux trafiquants ou encore la mise en place d'un dossier coffre dans certaines enquêtes.
Et puisqu'on parle de trafic de drogue, on va beaucoup parler ce matin sur RMC de ce véritable fléau, la consommation de drogue et d'alcool sur le lieu de travail.
En hausse de 107% en 8 ans, résultat d'une étude du spécialiste de la prévention et du dépistage Itilo, 13 fois plus de cas positifs détectés cette année qu'en 2017, alors que le Covid est passé par là et la pratique concerne davantage les travailleurs les plus précaires aux horaires décalés. Ce fut le cas de Marie aujourd'hui en sevrage, elle raconte son passé dans la restauration.
C'est un milieu où on n'a pas de vie en fait, parce qu'on se lève à 2h du matin. Et la cocaïne, ça réveille, ça rend actif, ça rend plus performant. Enfin, c'est ce qu'on se dit. Hein. On se ment en permanence de toute façon. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas eu une seule journée où je n'ai pas consommé. J'arrivais plus à gérer ce qu'on me demandait. Je commençais à faire beaucoup de conneries, à niquer les cuissons, à ne pas réussir à faire le travail en temps et en heure. Enfin, c'était une catastrophe.
Vous entendez un témoignage de Marie qui travaillait dans la restauration. Aujourd'hui, il n'y a plus de, de secteurs épargnés par la consommation d'alcool, de drogue, de stupéfiants, notamment la cocaïne. Là, on voit ces chiffres, hein, 13 fois plus de cas positifs à la cocaïne qu'en 2017. La consommation de drogue au travail qui explose ces dernières années. Même chose pour l'alcool, hein, le nombre de cas a doublé en 8 ans. On va vous poser très franchement la question ce matin au 32-16. Est-ce que vous le constatez autour de vous? Est-ce que vous-même, ça vous est arrivé, hein, de consommer de la drogue, de l'alcool sur le lieu de travail? Est-ce que vous l'avez constaté parmi vos collègues? Et puis, est-ce qu'il faut aujourd'hui aller plus loin? Est-ce qu'il faut dépister de plus en plus systématiquement les salariés dans votre secteur d'activité? Est-ce qu'il y a de la drogue? Est-ce qu'il y a de l'alcool? Vous entendrez ce matin, hein, les témoignages dans la restauration, sur des chantiers aussi. Bref, plus aucun secteur n'est épargné aujourd'hui par la drogue et l'alcool au travail. Vous témoignez, ça va être très précieux d'entendre vos témoignages au 32-16 ce matin.
Rima Hassan, de retour en France, en tant emprisonné en Israël après son arrestation à bord du Madeleine, navire humanitaire qui prévoyait de rallier Gaza. L'eurodéputée insoumise a été rapatriée de Tel Aviv. Elle est arrivée à Paris et s'est rendue dans la foulée Place de la République. Romain Cluzel, acclamé par ses soutiens.
Drapeau palestinien à la main et keffieh sur la tête, Rima Hassan raconte sa détention aux manifestants présents et donne de ses nouvelles.
Je vais bien, on est un peu éprouvé par les 4 jours de détention et aussi par la traversée. On a très très peu dormi et le temps de détention aussi a été assez éprouvant.
Lors de cette détention, Rima Hassan a eu quelques contacts avec une avocate et le consul de France.
Qui, je dois le dire, a fait un travail assez important et précieux et extrêmement humain.
Ces derniers jours, les insoumis avaient pourtant critiqué l'action de l'État français après l'arrestation de l'eurodéputé. Rima Hassan revient aussi sur son interpellation par les autorités israéliennes. Elle insiste, cette interception du navire n'était pas légale selon elle.
Ça a été confirmé par le consul qui est venu nous chercher, qui nous a dit qu'on avait effectivement été intercepté en nom international. Donc je pense que ça rappelle plusieurs choses. Ça rappelle premièrement l'impunité dont bénéficie l'État d'Israël et deuxièmement ce blocus qu'on n'arrive pas à défaire depuis des décennies.
Et l'eurodéputé l'assure, d'autres bateaux tenteront à nouveau d'atteindre les côtes de Gaza dans les prochaines semaines.
Il est 4h36. J'ai une question, Charles. Est-ce que vous êtes superstitieux?
Pas vraiment.
Pas vraiment. Je vous pose la question car nous sommes le vendredi 13, le seul de l'année 2025. Une journée redoutée par certains, très attendue par d'autres. C'est l'occasion de jouer. Quoi qu'il en soit, un tiers des Français ne seront pas indifférents à ce jour. Des superstitieux qui nous dévoilent leurs petits secrets du quotidien.
Je plie mes billets d'une certaine manière dans mon portefeuille. Je mets pas les chaussures neuves sur une table. C'est des trucs trop cons. Mais on m'a dit ça enfant et c'est resté en moi. Genre, je me dis, bon, je vais le faire au cas où.
Je suis footballeur, donc il y a juste des petites attitudes que j'ai. Par exemple, des protège-tibias. Je sais que j'ai des protège-tibias depuis que j'ai 12 ans. Même si je les mets plus parce que je peux plus les mettre, je les garde avec moi au moins dans mon sac pour me dire que vas-y, il y a quelque chose qui me donne un peu de chance.
Moi, ça va être vraiment le jour des examens. C'est-à-dire que je vais m'habiller comme si j'allais à un enterrement, mais de la tête aux pieds. C'est-à-dire en passant par les sous-vêtements, les chaussettes, les sacs, tout en noir. J'ai réussi mes examens en étant tout le temps comme ça.
Bah, génial, tous ces petits... Mais partagez avec nous. Alors là, je veux savoir, ce matin au 32-16, est-ce que vous êtes superstitieux? Vendredi 13, est-ce que vous allez jouer? Il y a des super cagnottes là, au loto, à l'euro-million. Est-ce que vous êtes joueur? Est-ce que vous pensez que le vendredi 13 vous porte chance? Au contraire, est-ce que vous le redoutez? Thibaut, ce vendredi 13, comment on l'aborde?
Moi, j'aime bien le 13.
Ah, Thibaut, bien le 13. Ah, donc Thibaut, superstitieux.
Oui, superstitieux. Ah oui, très superstitieux.
Mais est-ce qu'il y a des petits rituels? Est-ce qu'il y a un slip porte-bonheur?
Pas ce genre de choses. Par contre, je ne retourne pas le pain sur la table, je ne passe pas sous une échelle. C'est des choses. Si je vois un chat noir un vendredi 13, par contre, là, je me mets à paniquer.
Non, mais là, j'adore là, cette jeune fille qui dit « Je plie mes billets d'une certaine manière dans le portefeuille pour que ça me porte bonheur ». Racontez-nous. Alors là, je veux savoir, ce matin, vous composez le 32-16. Là, vous appelez Nicolas tout de suite ou bien vous nous envoyez un petit message sur l'appli RMC sur Direct Studio. Ça porte bonheur à tous les coups, je le dis aux superstitieux. Et vous nous racontez vos petits trucs, et vos petits trucs pour avoir de la chance, tout simplement. Si vous êtes superstitieux, évidemment, en ce vendredi 13, on va en parler avec vous ce matin au 32-16.
Et en ce vendredi 13, il va faire chaud, pic de chaleur, de la vague de chaleur aujourd'hui. Attention aux orages tout de même, parfois violents cet après-midi et ce soir sur le nord-ouest du pays, au sud de la Garonne également. Risque de pluie intense, des grêles, des violentes rafales de vent et même des tornades. Cet après-midi, il fera 22 degrés du côté de Brest, 30 degrés à Biarritz, 31 à Lille, 33 à Bordeaux, la maximale pour Bourges, Nancy, Limoges, 35 degrés.
La météo sur RMC avec Homer, vos vacances en camping 4 et 5 étoiles. Réservez votre séjour sur Homer, HOMIR.com.
4h39 sur RMC, c'était le premier journal de la matinée avec le superstitieux Thibaut Texer. qui adore le 13 en bon marseillais, oui, évidemment.
Oui, notamment. Mais je suis toulonnais à la base, 83.
C'est vrai, 83 aussi, ouais. Alors ce vendredi 13, bah, venez nous le raconter au 32-16. On a hâte de vous entendre. On va se retrouver dans un quart d'heure avec Géraldine, avec toute l'équipe, évidemment, pour le coup d'envoi de Charles Matin. Racontez-nous, est-ce que vous êtes superstitieux en ce vendredi 13? On aura 13 000 euros, tiens, à vous faire gagner aujourd'hui sur RMC. Soyez bien attentifs. On se retrouve dans un quart d'heure. On va parler notamment à la une de l'actualité de cette étude, là, vous l'avez entendu, ce témoignage dans le journal, on va y revenir sur la consommation de drogue et d'alcool au travail qui explose. Ça a doublé globalement les chiffres, c'est même fois 13 pour la cocaïne en 8 ans sur le lieu de travail. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Est-ce qu'il faut dépister systématiquement les salariés? Est-ce que dans votre secteur d'activité, là, on a entendu un témoignage dans la restauration, dans notre reportage, on entendra que dans le BTP aussi, sur certains chantiers, on dépiste de plus en plus de salariés qui consomment de la cocaïne, des stupéfiants, du cannabis, de l'alcool. Est-ce que vous le constatez autour de vous, cette consommation de drogue au travail? Vous en témoignez ce matin, évidemment, au 32-16. Vous connaissez le chemin. Il y a aussi Direct Studio pour tous vos messages sur l'appli RMC. On va vivre l'actu tous ensemble, juste après les meilleurs moments d'Estelle Midi.
Merci Charles, et on vous retrouve juste avant 5h. Ce sera après les meilleurs moments d'Estelle Midi sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on démarre les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas manquer aujourd'hui avec la fin du jour, Rémi.
La fin du jour, c'est celle de l'enseigne Casa. Après le placement en liquidation judiciaire de l'entreprise, les 143 magasins de l'enseigne de déco, de petits ameublements en France vont définitivement fermer. 700 emplois vont disparaître.
Ouais, donc c'est une très mauvaise nouvelle pour une nouvelle enseigne en France après la fermeture de nombreux magasins ces dernières semaines. Mais est-ce que c'est aussi de notre responsabilité, Jérôme Lavrieux, parce que si Casa ferme, c'est parce qu'on n'y va pas, quoi.
C'est les choix de consommation qu'on fait.
C'est pas cher, hein, franchement.
Ouais, mais sauf qu'ils sont pas, c'est pas cher, mais ils sont pas dans le créneau Action.
Non, c'est plus cher qu'Action.
Nous et oui. Compagnie, donc c'est plus cher. Et puis, ils sont victimes des nouveaux commerçants physiques, Action, Nous et compagnie. Et ils sont aussi victimes de nos achats sur Internet, nos achats compulsifs sur Internet. Donc ils peuvent pas, lutter. Et en plus, c'est une image vieillissante qui s'est pas renouvelée. Contrairement à des magasins comme la Foire Fouille, par exemple, ils se sont vachement renouvelés dans ce qu'ils proposent. Et donc c'est inéluctable. Si on arrête de les fréquenter, ils ferment. Faut pas pleurer sur la désertification. On a longtemps pleuré sur la désertification des centres-villes, les commerces. Maintenant, c'est les zones commerciales qui sont en train de se désertifier. Hein.
Après Casa, moi j'habite en banlieue parisienne et il y a un Casa dans mon centre-ville. Donc c'était aussi une boutique de centre-ville. Pour le coup, il y a un Casa dans le 16e arrondissement à Paris. C'était pas qu'une boutique de périphérie.
Sauf que les loyers sont trop forts pour eux maintenant.
Oui, c'est possible, c'est possible aussi, mais quelque part, ça interroge également Fred Hermel sur notre mode de, encore une fois, sur notre mode de consommation. On consomme trop sur Internet et on se rend pas compte des conséquences que ça a, quoi.
Ben moi, j'aime bien Casa.
Ouais, moi aussi.
À Madrid, j'en avais un, exactement le même. Hein. J'y allais tout le temps. Dès que j'avais un truc de déco, ou un parasol, ou une chaise longue, des trucs comme ça. Enfin,
moi, c'est mes décos de Noël que j'achète chez Casa.
Plutôt de qualité et pas très cher.
Mais c'était le habitat accessible.
C'est entre Maison du Monde et Action. Voilà. C'est moins cher que Maison du Monde, mais plus cher qu'Action.
Habitat a fermé.
D'accord. Ouais, bah oui, l'habitat, c'était plus cher que Casa. Hein.
Mais c'était le Casa, c'était le habitat accessible pour ouais, ouais. Mais l'un est fermé, l'autre suit après. Hein.
Sauf qu'avec l'ultra fast fashion dont on parle, mais ça concerne aussi l'ameublement et la déco. Ouais. Aujourd'hui, même le moyennement cher est trop cher.
C'est ça.
Pour les habitudes de consommation des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu trouves une petite lampe déco à 50 centimes, qu'est-ce que tu veux faire en face?
Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que ça va être la fin de nos magasins physiques, finalement, quand on voit effectivement toutes ces enseignes en difficulté, on a de quoi avoir peur, quoi.
Bah oui, il y a de quoi s'inquiéter. Effectivement, il y a deux volets. Il y a d'une part le fait qu'on peut acheter des produits de très mauvaise qualité sur Internet pas cher. Et là, il y avait une loi sur la fast fashion qui a été quand même largement vidée pour ne cibler finalement que quelques enseignes chinoises. Mais en fait, il faut vraiment s'attaquer à ça aussi parce qu'en Europe, on s'est mis des normes environnementales, sociales. Et c'est important aussi d'avoir des produits qui ne sont pas trop dégueulasses chez nous. Il faut les appliquer, y compris à la vente par correspondance, parce que ça permet de protéger ces enseignes-là. Mais ensuite, il y a le volet consommateur parce que effectivement c'est compliqué d'acheter plus cher si il y a eu de l'inflation et pas de hausse des salaires. Donc il faut aussi se poser la question de la politique de l'emploi, la politique salariale pour que les gens puissent acheter des produits qui sont un peu plus chers.
Après, sur la déco, quand tu vois un cadre photo chez Casa ou d'autres enseignes qui va te coûter 25 euros et que tu vois le même, et vraiment le même, qui doit venir de la même usine, et qui parfois, d'ailleurs, dans ces enseignes-là, physiques, sont aussi fabriquées en Chine, et qu'effectivement, tu le vois à 25 euros dans ces enseignes et à 3 euros sur Chine et Temu. Bah, oui. Oui, alors je sais qu'il y a la planète et tout ça, mais c'est vrai que quand tu gagnes pas beaucoup ta vie, tu te dis, mais attends, je vais pas payer un cadre photo 20 euros plus cher.
Enfin, mais en fait, bon, alors si l'environnement vous touche pas du tout, on peut aussi poser aux conditions de travail.
Non, mais dans ces magasins-là aussi, ça vient de Chine.
Même endroit.
Oui, non, mais au-delà de ça, là, il y a des emplois qui sont créés.
Bien sûr.
C'est tout ça. Là, ça fait 700 personnes qui sont sur le carreau. Après, effectivement, moi, je vous conseille quand même d'acheter des produits qui ne viennent pas de Chine parce qu'il y a quand même des chances que ce soit fabriqués dans des camps de travail forcés par les Ouïghours. Il y a des franches chances que ce soit plein de produits toxiques. Donc, il faut aussi un peu réfléchir à ce qu'on achète. Et c'est un peu comme la nourriture. Hein. Peut-être acheter moins, mais acheter mieux.
Le retour du jour.
Retour du jour, c'est celui de...
Dorothée,
on entend 16 ans après ses derniers concerts. Elle chantera le 4 avril 2026 au Palais des Congrès de Paris. Selon ses producteurs, elle proposera un concert exceptionnel centré autour de ses plus grands tubes, mais aussi de surprises et de beaucoup d'émotions. Pour ceux qui seraient intéressés, j'espère qu'il y aura d'autres dates, parce que celle que je viens de citer, 4 avril 2006, en quelques minutes ce matin, tout est complet.
2026. Mais en fait, il y avait une soirée Dorothée sur TF1 qui avait fait un immense carton. Et donc là, c'est le revival de Dorothée. Vous auriez aimé y aller, Jérôme Davrieux ?
Ça m'aurait... Enfin, objectivement, j'aurais pas fait la queue pour prendre un billet.
Oui.
Mais...
Enfin, si vous l'avez offert...
Ouais, j'y serais allé parce que je trouve ça drôle. C'est quand même pas une immense chanteuse. On y va par nostalgie, en fait. Pour moi, c'est...
Oui, t'attends pas son dernier tube.
C'est les années Goldorak, c'est une évolution par rapport à L'île aux enfants qu'on avait juste avant, et après on a eu Dorothée qui était une révolution. Ça reste la star française qui a fait le plus de Bercy et de Zénith dans sa carrière. Vous imaginez un peu?
Chantal Goya n'a même pas réussi, parce qu'elle est encore en...
C'est elle qui a le record.
D'accord.
Elle a le record. Okay. C'est inimaginable. Elle a vendu des dizaines de millions de disques.
Et oui.
Des dizaines de millions de disques, elle a vendu.
Immense star, Fred Hermel, vous y seriez allé.
Bah avec elle, Melu, on veut y aller.
Bah,
on en avait parlé. Bah oui, c'est pour ça qu'on attend d'autres places, quoi. Et moi, j'ai un vrai problème à devoir, je sais pas ce que je ferai dans un an, réservé pour dans un an, ça me stresse. Mais Dorothée, c'est tellement, enfin, récréado. Moi, c'est vraiment
oui,
récréado.
Sorti de trois chansons, enfin, qu'est-ce que tu fais le reste du temps, quoi?
Oh, bah, tu vas te marrer. De toute façon, tu vas voir que des gens de ton âge. On va se marrer, mais non, mais ça va être super drôle.
Bah, allez, un thé dansant, hein, vous direz que
mais non, mais c'est pareil.
Fred, hein.
Mais non, mais les trucs, on va parler d'Albator, de Goldorak.
Ah, ouais.
On va parler la chemise grise.
Valise,
un petit bûche un peu grise. Et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Tu connais pas ça?
Si, je connais, oui.
Bah oui, voilà, mais c'est
drôle. J'irais pas payer une place pour.
Ah, bon, sûr, moi, oui. Non, mais c'est pas de la grande chanson.
Merci, Fred.
Oui, mais je suis d'accord. Des années 80 au Stade de France, c'est pas de la grande chanson non plus.
C'est drôle.
Et on y va et on s'y amuse.
C'est parce que.
Non, moi, je vois Indochine, par exemple, c'est pas autre chose.
Jérôme a raison. C'est la nostalgie. Et en fait, on va être là comme des zigotos à danser sur des chansons un petit peu ridicules avec des gens qui seront exactement dans le même état que nous. C'est ça qui nous plaît, en fait, parce qu'on va avoir tous cette même réaction.
Bah écoutez, en tout cas, là pour l'instant, c'est sold out en 8 minutes, mais a priori, Dorothée, elle va rajouter 2-3 dates. Rien que pour te faire plaisir, Fred. Oui. La contradiction du jour.
La contradiction du jour, selon un sondage mené par l'IFOP, un tiers des moins de 35 ans se disent de plus en plus sensibles à la question des conséquences du trafic aérien sur l'environnement. Et pourtant, dans les faits, ils sont de plus en plus nombreux à utiliser ce mode de déplacement. Ils représentent désormais 46% des passagers, soit 8 points de plus entre 2016 et 2024.
On rappelle aussi que ce sont les principaux consommateurs de Chine et de Temu. Ils donnent beaucoup de leçons, les jeunes, à Anne-Sophie, mais finalement, ils ne sont pas si écolo que ça. On fait quoi pour les sensibiliser?
Qu'est-ce que vous détestez, les jeunes, dans cette émission? C'est terrible, vous avez tapé dessus à peu près à tous les niveaux. J'espère qu'il n'y a pas trop de corrélation entre les jeunes qui se soucient des questions environnementales et c'est ceux qui prennent le plus l'avion, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui s'en foutent. Hein. C'est quand même, les jeunes ne sont pas une entité, un groupe, c'est partagé. Et après, c'est pas pour excuser, hein. Je pense qu'il faut
faut vraiment réfléchir aux conséquences de ces actes. Mais sur les questions environnementales, on commet quand même l'erreur de tout rapporter au comportement individuel. Or, individuellement, c'est impossible d'être parfait. Moi, j'arrête pas de dire qu'il faut prendre le train, les transports publics, sauf qu'en fait, en France, il y a des endroits où je suis obligée de prendre la voiture parce que j'ai pas accès à autre chose. Et là, aujourd'hui, on a fait en sorte, on a construit les prix de manière à ce que le train soit plus cher que l'avion. Donc, si vous avez besoin de vous déplacer et qu'en fait, à un moment, ça coûte 200 euros d'y aller en train et 50 euros d'y aller en avion et que vous n'avez pas de sous parce que vous êtes étudiant, il y a un petit risque que vous alliez dévier. Donc, en fait, l'environnement, c'est avant tout une question de politique publique.
Le carton du jour.
Nintendo explose tous ses records. Le géant japonais du jeu vidéo revendique la vente de 3,5 millions d'exemplaires de sa nouvelle console, la Switch 2, dans le monde en seulement 4 jours. En Europe, elle est vendue au prix de 469,99 €.
Qu'est-ce qu'il y a, Fred ? Ça me fait plus rêver que Dorothée, tu vois, par exemple.
Moi non.
Ça m'étonne pas.
Moi non plus.
C'est incroyable quand même. Jérôme Lavrieux.
J'ai 55 ans. Je n'ai jamais joué à un jeu vidéo de ma vie.
Tu n'as jamais joué à Mario Kart ?
Jamais. Mon frère était dingue de jeux vidéo. Moi, je n'ai jamais.
Quand t'étais jeune.
Mais non, mais à chaque fois que j'ai le choix entre ça et un livre, j'ai toujours pris le livre.
Excuse-nous, pardon d'avoir une jeunesse. On peut lire et jouer aux jeux vidéo, tu vois.
Les deux en même temps, c'est compliqué.
Tu peux faire un petit peu des.
Non, ça n'a jamais été mon truc, je suis désolé.
Moi, j'en rêve de cette console, mais évidemment, elle est en rupture de stock partout.
Oui.
Anne-Sophie, ça, non ?
Alors, non, moi, pas du tout.
Il y a des composants électroniques, bon.
Alors, déjà, mais en plus, j'ai déjà eu l'occasion de parler de mon addiction au jeu ici. Pendant un an, j'ai réclamé une Game Boy à mes parents, et ensuite, je rêvais de Tetris tout le temps, donc j'ai arrêté tout.
Ah, moi aussi, j'adorais Tetris. Il est de retour sur cette console, justement.
Beaucoup trop de dépendance. Je préfère éviter tout ça. Et effectivement, par ailleurs, ça améliore mon bilan carbone. C'est super.
On s'évade avec le jeu vidéo en restant chez soi. Donc, quelque part, c'est écolo, Anne-Sophie. Ça évite de prendre les transports.
RMC. Retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr.
Sur RMC, la nuit, c'est le meilleur de la journée. Rediff. RMC Estelle Midi.
Le dame court du jour.
Le dame court du jour, et nous sommes jeudi, Pierre-Antoine. Et donc le jeudi, c'est le répondeur, les meilleurs messages.
Et oui, bonjour à tous. Les meilleurs messages, Estelle, et beaucoup, beaucoup de gens ont demandé à ce qu'on vous fasse un tu préfères. Estelle, tu préfères Fred Hermel ou Jérôme Lavrieux ?
Ça n'a rien à voir.
Vous êtes obligé de répondre, c'est les auditeurs qui demandent.
Mais ça n'a rien à voir.
Ah non, vous commencez pas, Estelle, parce qu'en fait.
Je vais réfléchir.
Alors Fred est plus.
Plus quoi ?
Non, je me lance dans une. J'essaie de faire le débat. Non,
pas du tout.
J'essaie mal. Allez, premier message. Ça, on y va.
Bonjour, c'est Dark Vador. C'était pour passer un message à Luc. Luc, dimanche, oublie pas de me faire un cadeau parce que je suis ton père.
C'est Dark Vador. Merci Dark Vador. N'oubliez pas dimanche la fête des pères. Allez, message suivant.
Oui, salut, c'est Ludo de Dieppe. Voilà pour vous dire que le tournoi sur gazon du Queens a commencé. C'est passionnant, nos Français sont plutôt super bien.
Non, pop. Désolé, on s'en fout, Ludo. Le tennis en France, ça nous intéresse que 15 jours par an pendant Roland-Garros. Alors là, le gazon, tout ça, non, rien à foutre.
Allez, message suivant.
Oui, bonjour, c'est pour vous dire que je suis un peu dégoûté. J'ai pas été pris à Secret Story alors que j'avais un secret incroyable. Je suis socialiste.
C'est Manuel Valls, je l'ai reconnu. Vous êtes autant socialiste que Fred Hermel et fan du Barça, c'est dire.
Message suivant.
Salut à tous, c'est Françoise de Nice. C'était pour vous dire qu'à l'occasion du sommet sur les océans, je faisais moins 20% à tous ceux qui ont le bigorneau qui sent la crevette. En plus, j'adore les fruits de mer, surtout avec de la mayo. Bisous.
Il fait chaud à Nice.
De pire en pire,
Françoise. Il est temps qu'elle parte en vacances. Bon appétit à tous si vous êtes à table.
Message suivant.
Allez.
Oui, bonjour, c'est Jean-Paul du Mans. Voilà, dimanche c'est la fête des pères et juste pour vous dire qu'à mon avis, je vais pas être déçu de mon cadeau parce que j'ai pas d'enfant. D'ailleurs, j'ai même pas de femme. Donc petite question, comme vous savez tout dans cette émission, est-ce que vous savez s'il y a une fête des puceaux dans l'année ? Merci.
La Sainte Catherine, oui.
Non, c'est la Sainte Françoise.
Ah bon ?
Par contre, faut prendre un billet pour aller à Nice, mais elle s'occupera très très bien de vous. Allez, message suivant.
Oui, bonjour, c'est Sylvie de Caen. Je voulais savoir où comptait se produire Emmanuel Macron pour la fête de la musique. Parce que mardi soir, sur les océans, je l'ai vu jouer du pipeau en direct sur France 2 pendant 3 heures sans s'arrêter. C'est un virtuose, hein. Chapeau l'artiste.
Ouais, Emmanuel Macron, c'est un virtuose. C'est un peu le Beethoven de la politique. Il improvise et il écoute rien.
Message suivant.
Oui, bonjour, André de Bourg-en-Bresse. Bon, ben ça y est, il m'a fallu 6 mois de recherche, j'en ai bavé, mais c'est bon, j'ai enfin trouvé une émission de France 2 sans Cyril Ferraud. Wouhou ! Mission accomplie. Allez, maintenant plus dur, je vais essayer de trouver un jeu sans Bruno Guillon. Allez, à dans 2 ans.
Ouais, eh ben, bon courage.
Il bosse beaucoup, c'est
ça. Il bosse.
Message suivant.
Oui, bonjour, c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà, j'ai appris que Dorothée revenait après 16 ans d'absence pour un grand concert où elle chantera tous ses succès. Bon, bah, moi, ça m'a donné envie de faire pareil, donc je vous annonce que l'an prochain, je serai présent au Salon de la Terrasse. Voilà, je fais mon grand retour. Ça se passe dans mon département préféré, la Creuse. Je vous attends, hein, venez en famille, évidemment.
Ouais, c'est affreux. Alors, il y a des comebacks qui font plus plaisir que d'autres. Estelle, on va au concert de Dorothée ensemble ?
Non, ça aurait été avec plaisir, mais je crois que toutes les places ont été vendues en 8 minutes ce matin.
Ouais, bah justement, fou, j'en ai pris 2.
Mais non.
Mais ouais.
Mais je peux pas.
Mais je vous ai pas donné la date.
Ah oui, mais je peux pas quand même.
Ah bah ok, super, sympa. Fred, vous venez ?
Ah oui.
Ah, Dorothée, voilà un fan de Dorothée.
Bah, ça m'étonne pas. Mais,
pourquoi ?
Non, mais parce que. Mais parce que.
Oui, d'accord.
Qu'est-ce qu'il a, Dorothée ?
Non, mais.
Allez, message suivant, je crois. C'est mieux, Estelle.
Oui, c'est encore Françoise de Nice. Je fais encore un message parce qu'il y a mon frère Dermel sur le plateau et je sais qu'il m'aime bien. Alors oui. Voilà, ce week-end, c'est les 24 heures du Mans. Du coup, je fais moins 20% pour ceux qui aiment mettre les doigts directement dans le pot de rillettes. Bisous, bisous.
Oh, allez, vive le Mans.
Vraiment, on termine
avec Françoise. Bisous à tous et vive la rillette.
Merci beaucoup, Pierre-Antoine Damecourt, le Damecourt du jour. Tous les jours, 13h50 dans Estelle Midi et en podcast rmc.fr. L'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.
Retour d'Estelle Midi tout à l'heure en direct à midi sur RMC. Et en attendant, Charles Matin avec vous, Charles Magnin. Bonjour Charles.
Salut Estelle, oui, on se retrouve tout à l'heure à midi sur RMC évidemment, tous ensemble. Mais là, il est 4h55 et c'est parti, on est en direct, c'est Charles Matin. Good morning. Good morning.
Good morning. RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Bon réveil à tous, bienvenue sur RMC. Bon courage si vous êtes déjà au boulot, déjà sur la route à 4h56. C'est parti, on est tous ensemble pour vivre toute l'actualité le matin sur RMC, dans la bonne humeur, avec Géraldine Demory à mes côtés. Salut Géraldine.
Salut Charles, bonjour à tous.
Géraldine, qui sait comment on doit s'habiller aujourd'hui? Parce qu'on sait plus là, est-ce qu'on met un short, est-ce qu'on met un kawaii, où est-ce qu'on en est?
Les deux, short et kawaii pour
short
aujourd'hui,
et kawaii.
C'est chaleur et orage.
On va regarder le détail de la carte météo, mais oui, cette... c'est un temps estival en même temps.
Très très estival, oui, enfin on n'est pas encore en été. On rappelle quand même qu'on est encore qu'au printemps.
C'est vrai, il fait tôt. Enfin, c'est tôt pour avoir ces fortes chaleurs.
C'est d'ailleurs le pic de forte chaleur là aujourd'hui. On est vraiment dans le pic. C'est le jour le plus chaud de la semaine.
Et les orages qui vont avec. On va regarder le détail dans un instant. Et nous sommes le vendredi 13 juin. Et oui, vendredi 13, Géraldine, est-ce que tu es superstitieuse ?
Oui, mais dans le bon sens. Ça porte de chance, le vendredi.
Pour toi, c'est un jour de chance aujourd'hui. Mais vous, dites-nous ce matin au 32-16, est-ce que vous allez être joueur aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes superstitieux ? Il y aura 3 fois plus de joueurs que d'habitude aujourd'hui, nous dit la Française des Jeux. Il y aura évidemment des super cagnottes au loto, à l'euro-million. Est-ce que vous allez... remplir une grille. Tiens, aujourd'hui, Géraldine, tu vas jouer, toi ?
Ah ouais, je vais tenter ma chance.
Ah, t'estimes qu'aujourd'hui, c'est ton jour de chance, mais vous, racontez-nous aujourd'hui, est-ce que
c'est
vous...
C'est absurde, hein,
je sais. Oui, parce que je sais que certains redoutent à l'inverse le vendredi 13, se disent, oulala, je sais pas, aujourd'hui, je monte pas dans un train, je fais pas certaines choses, j'évite, je sais pas, personne... Il y a des gens qui aimeraient pas se marier un vendredi 13, par exemple. Voilà, est-ce que pour vous, c'est un jour porte-bonheur ou est-ce que vous le redoutez, ce vendredi 13 ? Venez nous le dire ce matin, et puis est-ce que vous avez des trucs aussi pour la superstition. Est-ce que ce matin on a entendu des témoignages à 4h30 là de gens qui qui plient leurs billets d'une certaine façon, qui s'habillent d'une certaine façon, pour se porter chance. Toi Géraldine, t'as
des trucs,
des
petits gris-gris? Non, j'ai pas de
t'as pas un petit porte-bonheur,
non.
Un truc, racontez-nous, tiens, au 32-16 ou sur Direct Studio, on a hâte de lire vos messages aussi. Le 32-16 est ouvert, Nicolas est déjà là. On va vivre l'actu tous ensemble, puisque je parle du vendredi 13, évidemment c'est sur RMC que vous allez gagner. Oui, on va vous gâter, il y a 13 000 € à gagner ce matin.
RMC, ça porte chance, hein.
Oui, là on lutte notre va gagner jusqu'à 13 000 € tout à l'heure avec nous à 6h20. Allez, on vous dit comment jouer juste après le journal de 5h. À la une de l'actu ce matin, on a ces chiffres avec l'explosion de la consommation de drogue et d'alcool au travail. Les cas ont doublé en 8 ans selon une étude menée par une entreprise spécialisée dans le dépistage. Pour la cocaïne, le nombre de cas a même été multiplié par 13. Écoutez le témoignage de Marie, ancienne salariée de la restauration.
La cocaïne, ça réveille, ça rend actif, ça rend plus performant. Enfin, c'est ce qu'on se dit, hein. Il n'y a pas eu
une seule journée où je n'ai pas consommé, que j'arrivais plus à gérer. Enfin, c'était une catastrophe.
Alors, on vous pose cette question ce matin au 32-16. Est-ce que la drogue et l'alcool sont présents sur votre lieu de travail? Est-ce que vous avez vu le phénomène s'amplifier ces dernières années? Est-ce qu'il faut durcir les règles? Est-ce qu'il faut, tiens, dépister plus systématiquement les salariés face au fléau de l'alcool, du cannabis, de la cocaïne sur le lieu de travail? Est-ce que vous êtes prêts, tiens, à être dépistés au boulot? Le 32-16 est ouvert, tous vos témoignages et direct studio, évidemment, sur l'appli RMC. On va aussi parler tatouage ce matin sur RMC avec mon invité à 6h10. Est-ce que le tatouage n'a plus la cote aujourd'hui? Il y a de plus en plus de Français tatoués, mais aussi de plus en plus de tatoueurs, et donc de moins en moins de boulot pour chacun de ces tatoueurs. Le dernier mondial du tatouage au mois de janvier a fait un flop. Je vais recevoir le tatoueur Tintin tout à l'heure, le président du syndicat national des artistes tatoueurs. Il va nous expliquer pourquoi le secteur souffre. Mais oui, il y a de plus en plus de Français tatoués, vous en faites peut-être partie, mais les tatoueurs ont de plus en plus de mal à travailler. On va tout comprendre tout à l'heure à 6h10 sur RMC. Et puis tous les autres rendez-vous de Charles Matin, évidemment, au programme. Anthony Morel qui va venir nous présenter les dernières innovations dans le domaine de la santé qui ont été présentées au salon Vivatech, là, qui se tient en ce moment à Paris. Rendez-vous dans la bande à 5h40. On va aussi vous présenter la Coupe du Monde des clubs qui commence ce week-end, que vous allez pouvoir suivre sur RMC. Ce sera dans la Story Sport. Il y aura aussi ta solution conso, Géraldine, dans 20 minutes.
On va manger une bonne glace, une très bonne glace.
Mais pas trop cher.
Pas trop cher, bien sûr.
C'est le principe de la solution conso, ce sera juste avant.